Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes une nouvelle fois au Quorum, mais cette fois, nous sommes en compagnie du clarinette solo, Andrea Falico. Bonjour, Andrea Falico.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes clarinettiste de l'orchestre depuis combien d'années maintenant?
8 ans.
8 ans, d'accord.
Oui.
Vous êtes pas encore un ancien, mais ça vient.
Ça commence à venir, oui, on va dire
Ouais.
comme ça.
Alors, la clarinette, bon, tout le monde sait ce que c'est comme instrument. Vous êtes originaire de Sicile, d'après
Oui,
ce
tout à
que j'ai
fait.
lu sur le site de l'orchestre, tout simplement. Comment vous êtes venu à cet instrument-là, spécifiquement la clarinette?
Chez nous, et plus en général dans le sud de l'Italie, il y a une forte tradition d'harmonie à vent. Et quand j'avais l'âge de 7 ans, mon père, pour hobby, avait commencé le saxophone. Et pour cette raison, il a intégré l'harmonie municipale. Et moi, je l'ai suivi pour connaître des copains, jouer avec. Et un jour, en entendant la musique, j'ai eu le désir et le souhait de jouer de la clarinette. Donc, je commençais dans mon village natal. Et puis, au fur et à mesure, le chemin a continué.
D'accord. Alors, on dit souvent de la clarinette que des instruments à hanches, vous évoquiez le saxophone tout à l'heure, c'est le plus difficile. Moi, j'ai souvent entendu dire ça. Est-ce que vous avez essayé les autres? Est-ce que vous confirmez que c'est effectivement un instrument dans la famille des hanches un petit peu particulier?
Ça dépend. Chaque instrument a sa spécificité. Après, dans le milieu des musiciens, on dit que parmi les instruments à hanches, c'est le plus facile. Mais bon, il y a des blagues autour de ça, parce que la clarinette est connue pour obtenir les pianissimi qui partent de rien, chose qui est un peu plus difficile pour les hautbois, les bassons, en ayant une hanche double. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'extension, on traverse presque 4 octaves. Donc, il y a cette étendue qui est assez large et obtenir une homogénéité générale, ce n'est pas facile. Mais après, je suis de l'avis que chaque instrument, si bien joué, tout instrument est exigeant, oui.
D'accord, oui. C'est aussi un instrument, il me semble qu'on voit qu'il y a une certaine souplesse, puisqu'on le trouve dans des genres très différents.
Oui,
C'est
tout
un
à
instrument
fait.
qui a beaucoup été utilisé dans le jazz.
Oui.
On parlera tout à l'heure du concerto de Kaplan, c'est quand même un clarinettiste jazz classique qu'il a
Bien
créé.
sûr, bien sûr.
Et bon, puis on peut penser à une figure comme Michel Portal, qui joue aussi bien du jazz que du classique, qu'on retrouve pas trop. Sur les autres instruments à hanches et puis sur les autres vents de l'orchestre, on trouve assez peu cette polyvalence de l'instrument. À quoi elle tient pour vous?
Mais c'est un instrument qui est, comme vous venez de dire, très très souple. Ça veut dire que avec le même matériel, on peut obtenir un son à la fois riche et à la fois un peu nasillard. Juste ces questions d'embouchure. Et pour cette motivation, on peut s'adapter à la mesure près, on peut dire. Donc voilà, c'est quelque chose d'immédiat que, avec un peu de flexibilité, on peut arriver à avoir. Mais même si ce n'était pas la même époque, donc l'époque du jazz, Mozart a mis à l'honneur cet instrument justement pour ça, parce que c'était le premier instrument qui a arrivé à avoir une souplesse dans plusieurs registres. Par exemple, Mozart même aimait, il adorait le registre grave de la clarinette, et notamment le concerto qu'il a composé a été composé pour la clarinette de basset, qui a une étendue qui va encore plus bas, par rapport à la clarinette que tout le monde connaît. Et donc, c'est à partir de là que la clarinette a été valorisée. Et donc, avec cette sonorité riche, malléable, pendant l'époque romantique, elle a été explorée pour les symphonies de Schumann, Brahms, mais surtout pour la musique de chambre. C'est l'instrument chambriste par excellence. Schubert compose des lieders avec la voix.
Partition de Rocher, qui est
Voilà,
une
tout à
clarinette.
fait. Oui. Donc, et là, le point en commun avec tous ces compositeurs, c'est que la clarinette, c'est l'instrument de la maturité. Mozart compose le concerto, c'est une de ses dernières œuvres. Pour Brahms, c'est l'opus 115, l'opus 120, les sonates, le
Les deux sonates,
trio, le
oui.
quintette. Schumann aussi, avec les Fantasiestück, voilà. Et puis, si on continue un peu à traverser les siècles, on arrive à la musique de l'Europe centrale, donc Bartok, Kodály, là aussi Dvorak, la clarinette, c'est quand même l'instrument roi, parce que on peut penser dans les danses de Galanta, où il y a des grands solos pour la clarinette. Bartok, le concerto pour orchestre, Mandarin merveilleux. Voilà. Et c'est aussi un instrument qui relève de la culture populaire en Hongrie. C'est un peu ce qu'on voit, pour donner juste une idée visuelle, ce qu'on voit dans les rues ou dans le métro. La clarinette, quand même, les gens qui jouent. Pour ceux qui passent, on peut entendre du violon, mais la plupart du temps, il y a aussi de la clarinette. Donc, c'est un instrument qui est ancré dans la société. Et voilà, et c'est pour ça que c'est une constante. C'est quelque chose qui reste parce que c'est un instrument qui plaît beaucoup. Et cette facilité, ce côté immédiat. Plaît aux gens et même pour débuter, pour se faire plaisir, c'est le top.
Oui, puis vous évoquez l'Europe centrale, on pourrait évoquer la tradition du klezmer
Voilà,
qui
tout à
sans la
fait.
clarinette,
Voilà.
il leur manque l'essentiel.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Le klezmer, c'est voilà, donc encore un autre peuple, le peuple juif. Voilà, c'est comme le violon, c'est un instrument facile à porter et dans les milliers de voyages qu'ils ont été obligés de faire, on pouvait aussi emmener la clarinette. Et ce qui a fait Bartok, par exemple, Kodály, et c'était de mettre en musique tout ce qui est populaire. Donc les chansons qu'on chantait en famille, en petit comité, en société, c'était des chansons qui étaient transmises surtout à l'oral. Et le fait de le jouer avec un instrument, ça permettait de les mémoriser de façon plus facile. Et donc la transmission de génération en génération était plus facile. Et là, il y a un côté un peu triste, mais... Pour les mêmes raisons, la clarinette était présente dans le camp où le quatuor pour la fin du temps de Messiaen a été créé. Il y avait un clarinettiste, Messiaen, il a fait avec les instrumentistes qu'il avait à disposition,
Oui, parce qu'il
dont une clarinette.
était incarcéré à l'époque.
Voilà. Et donc, la clarinette était là et le quatuor a été joué pour la première fois dans le camp. Nazi. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un instrument qui a beaucoup de succès. Parce que voilà, les genres musicaux qu'il peut embrasser, envelopper, sont plusieurs.
Alors, parmi vos activités, il y a l'orchestre, mais pas seulement. J'imagine qu'il y a aussi une activité de chambriste. Et puis, vous avez aussi une activité d'animateur et de faire connaître la clarinette avec le festival de clarinette dont vous êtes directeur artistique. J'entends souvent parler de vous quand je les reçois à notre studio.
Oui. J'ai déjà eu le souhait de créer un festival autour de cet instrument à Montpellier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne, qui me prend beaucoup de temps aussi. Et je le fais avec plaisir. Et parallèlement, j'ai aussi commencé des études en direction d'orchestre. Et voilà, donc mes journées sont bien remplies.
Bien, on fait une toute petite pause et puis on se retrouve pour parler notamment du concerto de Copland que vous allez jouer prochainement.